Il n'est pas douteux que l'idée du suicide ne se communique contagieusement. Nous avons déjà parlé de ce couloir où 15 invalides vinrent successivement se pendre, et de cette fameuse guérite du camp de Boulogne qui fut, en peu de temps, le théâtre de plusieurs suicides. Des faits de ce genre ont été très fréquemment observés dans l'armée, dans le 4e chasseur à Provins en 1862, dans le 15e de ligne en 1864, au 41e d'abord à Montpellier puis à Nîmes en 1868, etc. En 1813, dans le petit village de Saint-Pierre-Mongeau, une femme se pend à un arbre. Plusieurs autres viennent s'y pendre à courte distance. Pinel raconte qu'un prêtre se pendit dans le voisinage d'Étampes. Quelques jours après, deux autres se tuaient et plusieurs laïcs les imitaient. Quand Lord Castlereagh se jeta dans le Vésuve, plusieurs de ses compagnons suivirent son exemple. L'arbre de Timon le misanthrope est resté historique. La fréquence de ces cas de contagion dans les établissements de détention est également affirmée par de nombreux observateurs. Toutefois, il est d'usage de rapporter à ce sujet et d'attribuer à l'imitation un certain nombre de faits qui nous paraissent avoir une autre origine. C'est le cas notamment de ce qu'on a parfois appelé les suicides obsidionaux. Dans son histoire de la guerre des Juifs contre les Romains, Joseph raconte que, pendant l'assaut de Jérusalem, un certain nombre d'assiégés se tuèrent de leurs propres mains. En particulier, 40 Juifs, réfugiés dans un souterrain, décidèrent de se donner la mort et ils s'entretuèrent. Les Xantiens, rapporte Montaigne, assiégés par Brutus, se précipitèrent pêle-mêle, hommes, femmes et enfants, à un si furieux appétit de mourir qu'on ne fait rien pour fuir la mort que ceux-ci ne fassent pour fuir la vie. De manière qu'à peine Brutus peut en sauver un bien petit nombre. Il ne semble pas que ces suicides en masse aient pour origine un ou deux cas individuels dont il ne serait que la répétition. Ils paraissent résulter d'une résolution collective, d'un véritable consensus social plutôt qu'une simple propagation contagieuse. L'idée ne naît pas chez un sujet en particulier pour se répandre au-delà chez les autres, mais elle est élaborée par l'ensemble du groupe qui, placé tout entier dans une situation désespérée, se dévoue collectivement à la mort. Les choses ne se passent pas autrement toutes les fois qu'un corps social, quel qu'il soit, réagit en commun sous l'action d'une même circonstance. L'entente ne change pas de nature parce qu'elle s'établit dans un élan de passion. Elle ne serait pas essentiellement autre si elle était plus méthodique et plus réfléchie. Il y a donc impropriété à parler d'imitation. Nous pourrions en dire autant de plusieurs autres faits du même genre, tels celui que rapporte Esquirol. Les historiens, dit-il, assurent que les Péruviens et les Mexicains, désespérés de la destruction de leur culte, se tuèrent en si grand nombre qu'il en périt plus de leurs propres mains que par le fer et le feu de leurs barbares conquérants. Plus généralement, pour pouvoir incriminer l'imitation, il ne suffit pas de constater que des suicides assez nombreux se produisent au même moment dans un même lieu, car ils peuvent être dus à un état général du milieu social, d'où résulte une disposition collective du groupe qui se traduit sous forme de suicides multiples. En définitive, il y aurait peut-être intérêt, pour préciser la terminologie, à distinguer les épidémies morales des contagions morales. Ces deux mots, qui sont indifféremment employés l'un pour l'autre, désignent en réalité deux sortes de choses très différentes. L'épidémie est un fait social, produit de causes sociales. La contagion ne consiste jamais qu'en ricochet, plus ou moins répété, de faits individuels. Cette distinction, une fois admise, aurait certainement pour effet de diminuer la liste des suicides imputables à l'imitation. Néanmoins, il est incontestable qu'ils sont très nombreux. Il n'y a peut-être pas de phénomène qui soit plus facilement contagieux. La pulsion homicide elle-même n'a pas autant d'aptitude à se répandre. Les cas où elle se propage automatiquement sont moins fréquents et surtout, le rôle de l'imitation y est en général moins prépondérant. On dirait que, contrairement à l'opinion commune, l'instinct de conservation est moins fortement enraciné dans les consciences que les sentiments fondamentaux de la moralité, puisqu'il résiste moins bien à l'action des mêmes causes. Mais ces faits reconnus, la question que nous nous sommes posée au début de ce chapitre reste entière. De ce que le suicide peut se communiquer d'individu à individu, il ne suit pas a priori que cette contagiosité produise des effets sociaux, c'est-à-dire affecte le taux social des suicides, seul phénomène que nous étudions. Si incontestable qu'elle soit, il peut très bien se faire qu'elle n'ait que des conséquences individuelles et sporadiques. Les observations qui précèdent ne résolvent donc pas le problème, mais elles en montrent mieux la portée. Si en effet, l'imitation est, comme on l'a dit, une source originale et particulièrement féconde de phénomènes sociaux, c'est surtout à propos du suicide qu'elle doit témoigner de son pouvoir, puisqu'il n'est pas de fait sur lequel elle est plus empire. Ainsi, le suicide va nous offrir un moyen de vérifier par une expérience décisive la réalité de cette vertu merveilleuse que l'on prête à l'imitation.